chapitre 14.
2 octobre 1998, 10h52. Planque le cadavre de grand-duc. Le ton de Mathilde de Carville ne souffrait aucune contestation. Malvina de Carville tenta pourtant de protester dans le téléphone.
Mais mamie,
planque le cadavre de grand-duc, je te dis. N'importe où, dans un placard, sous un meuble, il faut gagner du temps. N'importe qui peut venir chez lui, sa voisine, sa femme de ménage, sa maîtresse. Tôt ou tard, les flics vont débarquer. Petite sotte, tu as dû laisser des empreintes partout dans la maison. Efface tout, te dis-je. Malvina se mordit les lèvres. Sa grand-mère avait raison. Elle avait agi comme une idiote. Elle tournait sur elle-même dans le salon, juste entre le cadavre de Crédule Grand-Duc et le vivarium, où les bestioles finissaient de crever. Il fallait qu'elle s'active, mais elle ne pouvait pas rester longtemps. Il fallait qu'elle en parle à sa grand-mère. Il allait arriver.
« Mamie, il y a autre chose. »
À l'autre bout du téléphone, Mathilde de Carville marqua un temps d'arrêt. D'une main, elle tenait le combiné. De l'autre, elle continuait de tailler la longue rangée de rosiers. Elle sentit tout de suite, au ton de sa petite fille, que c'était important. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Malvina ?»«
Marc Vitral a appelé chez Grand-Duc, il y a 5 minutes à peine. Il a laissé un message sur son répondeur. »
Mathilde de Carville se garda bien d'interrompre sa petite fille. Elle coupa une branche d'un mouvement précis de sécateur.
Il dit qu'il cherche Grand-Duc. Il sera là dans une demi-heure. Il vient en métro. Cela concerne Lise Rose. Et il dit que c'est lui qui a le carnet de notes de Grand-Duc. Lise Rose l'a lu hier. Elle le lui a confié ce matin.
Une autre branche de rosier tomba, sciée à la base. Une pluie de pétales fanés s'éparpilla sur la robe noire de Mathilde de Carville. « Alors, raison de plus. Dépêche-toi, Malvina. Fais ce que je t'ai dit. Efface toutes les traces et sors de la maison. »
« Et ensuite, mamie ?»
Pour la première fois, Mathilde de Carville hésita. Les mâchoires du sécateur qui embrassait le bois demeurèrent béantes. Jusqu'où pouvait-elle utiliser Malvina ? Jusqu'où pouvait-elle la garder sous contrôle, sans risquer un nouveau dérapage ? « Tu restes à proximité, Malvina. Marc Vitral ne te connaît pas. Tu te caches dans la rue, tu l'observes, tu le suis. Mais tu ne fais rien d'autre. Tu me téléphones dès que tu l'as repéré. Tu m'as bien comprise ? Tu ne fais rien d'autre. Et surtout, tu planques le corps. »
J'ai compris, mamie. »
Elles raccrochèrent. Les mâchoires d'acier se refermèrent sur la tige. Mathilde de Carville connaissait la haine de Malvina pour les vitrales. Elle était également consciente que sa petite fille se promenait dans la rue avec un Moser L110, chargé, en parfait état de marche. Elle en avait la terrible confirmation. Était-il raisonnable de ne pas chercher à éviter à tout prix la rencontre entre Marc Vitral et elle, rue de la Butte aux Cailles, devant la maison de Grand-Duc ? Raisonnable. Mathilde de Carville avait banni ce mot depuis longtemps. Le plus simple était de s'en remettre au destin, au jugement de Dieu, comme toujours. Mathilde sourit pour elle-même et continua de tailler les rosiers avec une dextérité étonnante. Ses longs doigts possédaient le don étrange de se poser sur les tiges entre les épines, sans jamais se piquer, de les tordre d'un geste ferme jusqu'aux lames tranchantes du sécateur. Mathilde de Carville travaillait rapidement, mécaniquement, presque sans baisser les yeux sur ses mains, comme une couturière manipule son aiguille sans même la regarder. Son élégante robe noire se souillait de terre, de brins d'herbe collées et de pétales. Mathilde de Carville ne s'en souciait pas. Elle tourna la tête vers l'immense parc de la Roseraie. Léonce de Carville était assis dans son fauteuil roulant, au milieu de la pelouse, sous le grand érable, la tête tombée sur le côté. Il se tenait à plus de 30 mètres d'elle, et Mathilde pouvait pourtant entendre ses ronflements. Elle hésita à appeler Linda, l'infirmière, pour qu'elle vienne lui redresser la tête, placer un coussin sous son cou, le rentrer aussi, il ne faisait plus si chaud. Elle haussa les épaules. À quoi bon ? Son mari avait sombré dans cet état végétatif. Il y avait près de 17 ans maintenant. Il était péniblement parvenu à résister au premier infarctus, à remonter la pente, quelques semaines, mais n'avait rien pu faire contre le second, en pleine assemblée générale, au 7e étage de leur siège social, juste derrière Bercy. Les urgentistes étaient parvenus à lui sauver la vie, mais le cerveau n'avait pas été irrigué pendant de trop longues secondes. Mathilde de Carville continuait d'examiner ses plantes tout en suivant des yeux, sur la terre brune, l'ombre de la croix qu'elle portait au cou. Le jugement de Dieu, une nouvelle fois. Après la catastrophe du Mont Terrible, son mari avait voulu s'occuper de tout, comme toujours. Elle s'était inclinée, elle avait laissé faire. Il possédait le pouvoir, la force, les relations. Elle avait eu bien tort. Après le décès de leur fils unique, Alexandre, Léonce avait perdu toute lucidité. Il n'avait fait que multiplier les erreurs, la mallette pleine d'argent offerte au vitral, la gourmette dont il avait refusé de parler, cette pauvre Malvina qu'il avait traînée partout pendant des semaines pour qu'elle témoigne à tout va. Sans parler du reste, l'inavouable. Oui, Mathilde n'éprouvait que du mépris pour cet infirme. Après toutes ces années, il n'y avait guère que l'accident de l'Airbus dont elle ne pouvait rendre responsable son mari. Les doigts de Mathilde volaient de tige en tige. Les épines des roses, armes dérisoires, n'opposaient aucune résistance. Les branches s'effondraient les unes sur les autres. Et encore, c'était son idée personnelle, le fameux pipeline Bakou-Tbilissi-Seyan. Envoyer pendant des mois son fils unique vivre en Turquie, avec sa belle-fille enceinte, sa petite-fille contrainte de naître à l'étranger. Pour une chimère. En 1998, pas un tuyau n'était encore posé sur cette maudite ligne. Léonce de Carville avait eu tout faux. Elle regarda, avec dégoût, les feuilles d'érable tombées sur son mari, par dizaines, sur ses cheveux, ses épaules, ses bras, s'accumulant dans l'entrejambe. Mathilde trancha une dernière branche et se recula, contemplant son travail. La dizaine de rosiers était taillée au plus ras. Mathilde se souvenait des conseils de sa propre grand-mère. « On ne taille jamais trop ras un rosier. Les tailler ras, toujours plus ras, lutter contre sa volonté de remonter la cisaille, l'abaisser au contraire, tailler 10 centimètres en dessous, toujours. » La villa La Roseraie datait de 1857. L'année était encore gravée dans le granit au-dessus du porche. Mathilde savait que les rosiers avaient été plantés la même année et que depuis ce temps, les Carville les entretenaient eux-mêmes. Ils employaient des dizaines de personnes pour nettoyer, faire la cuisine, tondre, astiquer les cuivres, laver les fenêtres, surveiller la propriété. Mais depuis des générations, les Carville s'occupaient de l'entretien de la roseraie. Mathilde avait été initiée au jardinage dès qu'elle avait su marcher. Outre les rosiers, elle avait constitué elle-même un jardin d'hiver, un peu à l'écart de la villa. Elle admira une dernière fois la coupe des plantes et, sans un regard vers son mari, avança vers la serre. Elle repensa aux derniers mots de Malvina. Ainsi, le carnet de notes de Crédule Grand-Duc, son testament, toute son enquête, était entre les mains de Marc Vitral. Quelle ironie ! Devait-elle encore se servir de Malvina pour le récupérer ? Continuer de lui mentir, l'entretenir dans son illusion? Toutes les preuves qu'elle avait obtenues par la suite, ces preuves que Grand-Duc lui avait fournies, jamais elle n'en avait parlé à Malvina. Cela l'aurait tuée. Elle entra dans la serre, resta un long moment, comme tous les matins, à respirer l'incroyable mélange d'odeurs, son havre de paix, son œuvre. C'est ici, dans cette serre, qu'elle se sentait le plus proche de Dieu, de sa création, qu'elle priait le mieux, bien plus que dans les églises. Malvina, la folie de sa petite fille, cela aussi c'était la faute de son mari. Elle se souvenait de la délicieuse petite fille qu'était Malvina à 6 ans, de son rire dans l'escalier de merisier, de ses cachettes futées dans le jardin, de ses yeux émerveillés devant les herbiers qu'elle feuilletait avec elle. Maintenant, à part lui mentir, que pouvait-elle faire ? L'enfermer dans un hôpital psychiatrique ? Seule l'obsession de Malvina la poussait encore à se lever, s'habiller, se nourrir. Lise Rose était vivante, avait survécu malgré la sentence du juge 18 ans plus tôt. Elle seule, sa grande sœur, pouvait la ramener à la vie, même après toutes ces années. La ramener à la vie, un Moser L110 entre les mains. Mathilde de Carville se pencha vers un bouquet de lys d'écafre, l'une des dernières plantes à fleurir en automne. Mathilde parvenait tous les ans à la faire tenir sous sa serre jusqu'en décembre. C'était sa fierté, le bouquet sur la table du réveillon de Noël, un mélange de lys rose, de lys d'écafre, major rouge et alba immaculé. Mathilde contrôla méticuleusement le niveau d'eau. L'humidité était la gourmandise des lys, le secret de leur éclat et de leur longévité. Son esprit s'échappa à nouveau vers Malvina, le bras armé de sa vengeance. Il fallait bien qu'aujourd'hui quelqu'un défende les intérêts des Carville. Pourquoi pas Malvina, après tout? Les choses allaient changer dans les jours, les heures à venir. Maintenant que Lily avait lu le cahier de Grand-Duc, Malvina n'était plus la seule bombe à retardement lâchée en pleine rue. Grand-Duc lui avait offert un cadeau d'anniversaire empoisonné. Le film de sa vie. Tous les secrets de famille consignés sur 100 pages. Deux familles, double peine. De quoi rendre Lily folle, elle aussi. Folle de rage. Mathilde de Carville avança encore. Les astères, septembre rouge de son jardin d'hiver, perdaient leurs derniers pétales, quelques rayons pourpres reliés à un cœur d'or, comme si une amoureuse indécise s'était introduite au milieu de la serre pour effeuiller une à une les pâquerettes géantes. Une image curieuse s'imposa à l'esprit de Mathilde. Presque un rêve, comme une prémonition. Elle voyait Lily entrer ici, dans le parc, dans la roseraie, armée d'un revolver, un Moser L110, le doigt sur la détente. Elle marchait lentement sur la pelouse. Oui, Lily avait bien des raisons de venir se venger, si Grand-Duc révélait tout dans son cahier. Mathilde sourit pour elle-même. Une question la taraudait. Ce doigt sur la détente, cet index, porterait-il la bague? Le saphir clair, les incrustations de diamants orneraient-elles ce doigt vengeur? L'image, petit à petit, s'effaça. L'astère orangé réapparut, nu à l'exception de 3 derniers pétales. Mathilde de Carville murmura du bout des lèvres, juste pour elle, « Joyeux anniversaire ! Lily. » Si elle avait su, à l'époque, jamais elle n'aurait engagé crédule Grand-Duc dans ce compte à rebours stupide. Elle s'avança encore, tourna la tête derrière son épaule pour bien vérifier qu'elle était seule. Elle l'était. Personne ne l'observait par les verrières de la serre. Elle se pencha vers son jardin secret, poussa les iris et dévoila quelques tiges, discrètes, des petites fleurs jaunes, quelques pieds de chélidoine. Mathilde de Carville aimait contempler ces 4 pétales jaunes dorés, en croix, groupés en ombrelles. L'herbe aux verrues, comme on l'appelait autrefois. Mais Mathilde préférait l'autre visage de la chélidoine. La croix des pétales dissimulait une plante mortelle, peut-être la plus toxique de toutes, une concentration unique d'alcaloïdes dans son suc. Son péché mignon. Dieu lui pardonne. Elle fit demi-tour, sortie de la serre. Léonce de Carville était toujours assis, désarticulé, simplement secoué d'un tremblement régulier qui agitait les feuilles rouges. Un tronc mort, biscornu. Le regard de Mathilde de Carville embrassa l'ensemble de la propriété, la roseraie, la villa, le parc. Non, tout n'était peut-être pas perdu. Le nom, la race, l'honneur. Lise Rose. Elle en venait à raisonner comme Malvina. Il restait un ultime espoir, ce coup de téléphone de crédule Grand-Duc, hier, le dernier avant sa mort. Il prétendait avoir découvert un nouvel élément qui remettait en cause toutes ses certitudes antérieures. Il lui avait affirmé avoir eu l'illumination 3 jours auparavant, dans les toutes dernières minutes de son contrat, soi-disant en lisant l'Est républicain, à 5:00. Allait-elle être assez naïve pour le croire? Allait-elle être assez stupide pour suivre Grand-Duc dans un bluff aussi grossier? Grand-Duc n'avait rien voulu dire de plus. Il lui avait précisé qu'il voulait vérifier quelques derniers détails. Elle repensa à Malvina et à son Moser. Grand-Duc s'était comporté comme ses témoins dans les romans policiers qui cherchent à faire monter les enchères et qui se retrouvent avec une balle dans le cœur avant d'avoir pu prononcer un chiffre. Mathilde de Carville avança devant les branches coupées des rosiers. Elle se pencha et ramassa les tiges à pleine main, sans grimace, sans aucune souffrance apparente. Malgré elle, elle ne pouvait s'empêcher de croire aux derniers mots de crédule grand-duc. Une issue, un ultime espoir. Et comme toujours dans cette histoire, la balance du destin. Pour qu'une famille espère, l'autre devait tout perdre.